Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Audrey Guélou et Stéphane Croza.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission du cours WE1 Écrire, communiquer et collaborer sur le web donné à l'UTC par Stéphane Croza et dont les supports de cours se trouvent sur librecours.net. Je suis Audrey Guélou et aujourd'hui je suis avec Anna, Léonie, Pauline, Florine et Armand. Bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour.
Alors, comme vous êtes étudiant et étudiante de WE1, vous avez réalisé un projet ce semestre qui consiste à écrire, à publier sur le web un dossier thématique qui aborde une problématique technologique du web. Alors, la semaine dernière, on a eu deux interventions qui ont eu lieu, une sur le thème de Wikipédia, un exemple pour penser la low-technicisation du web, une autre intervention sur le thème aussi des conflits des médias numériques et des réseaux sociaux. En début d'après-midi, si vous avez écouté Radio Graphite, vous avez entendu Stéphane avec deux groupes d'étudiants qui nous ont parlé respectivement de l'amplification de la surveillance en période de pandémie et de la désinhibition armes pour ou contre le peuple. Alors vous pourrez retrouver toutes ces émissions, tous ces podcasts sur l'instance Peertube à Peri.tube, chaîne WE1. Et puis aujourd'hui et maintenant, on est donc six en studio et donc vous allez tous les cinq nous présenter votre intervention intitulée « Smart Cities entre imaginaire et réalité ». Alors les autres étudiants et étudiantes d'UTD et de WE1 sont normalement à l'écoute de votre intervention et donc je vous relayerai leurs questions posées au long de votre présentation sur Mattermost, équipe WE1, canal projet. Ok, vous êtes prêts, vous êtes prêtes? On y va, alors on commence avec un premier extrait.
And so for me, when I started working on smart cities, what immediately interested me was specifically the way they affect absolutely everyone. Everyone who steps in a city is going to be affected by the fact that this is a smart city. And it doesn't matter if you have a computer or not. It doesn't matter if you have a phone or not. The moment you step in the city, you know, you get exposed to the use of the technology that's embedded in the city. There is no question that technology is going to be embedded in our cities. Technologies are going to transform our cities. But how do we want that to happen? This is what I was still confused about.
Alors, excusez-moi pour cette petite interruption. Comme vous la laissez entendre l'extrait qui vient de passer ici du podcast Smart for Home, A Tale of Smarter Cities, disponible sous licence CC BY-SA sur Peertube, nous allons discuter ensemble dans l'heure qui vient d'un sujet qui nous concerne toutes et tous, à savoir celui des villes intelligentes. Lorsque nous avons commencé nos recherches de groupe sur le sujet en septembre, nous nous sommes vite aperçus qu'il n'existe pas de définition unique et consensuelle de la Smart City, même en 2021, après déjà plus de deux décennies d'expérimentation. Depuis le milieu des années 2000, un discours global s'est répandu autour d'une vision idéale de la ville du futur, reposant principalement sur les technologies de l'information et de la communication. En réalité, il faut savoir que la relation entre ville et système d'information n'a rien de nouveau. Elle s'observe dès l'aube du XXe siècle, comme le décrit l'ingénieur français et docteur en histoire Antoine Picon dans son article « Ville et système d'information, de la naissance de l'urbanisme moderne à l'émergence de la Smart City ». Cet article est paru en 2018 dans la revue Flux. Et dedans, on nous explique comment les doctrines et pratiques urbanistiques se sont modifiées en relation directe avec cette question de la ville comme ensemble de systèmes d'information. Cette évolution y est aussi mise en parallèle avec l'évolution des sciences et des techniques telles que le développement de la cartographie, de la cybernétique ou encore de la théorie des systèmes. En fin de compte, ce qui a changé radicalement à partir du XXIe siècle et qui va favoriser l'émergence de ce concept de Smart City, c'est la façon de collecter des données relatives au fonctionnement des villes et surtout le volume démesuré de toutes ces données, le fameux Big Data. D'accord, mais alors dans tout ça, la ville intelligente, qu'est-ce que c'est exactement? La ville intelligente est un nouveau concept de développement urbain. Il s'agit d'améliorer la qualité de vie des citadins en rendant la ville plus adaptative et efficace à l'aide de nouvelles technologies qui s'appuient sur un écosystème d'objets connectés et de services numérisés. Le périmètre couvrant ce nouveau mode de gestion des villes inclut notamment les infrastructures publiques, les réseaux, les transports, les e-services et e-administration. Alors, ce que je viens de vous lire là, ce n'est pas de moi, c'est la définition officielle qu'en donne la Commission nationale informatique et liberté. Et ce que nous dit la CNIL ici, c'est que les recherches et expérimentations liées à ce domaine bouleversent la fabrique urbaine traditionnelle, c'est-à-dire la manière que nous avons d'imaginer, d'organiser et d'aménager nos villes. D'accord, mais quelle finalité ça poursuit donc une Smart City ? Là, les avis divergent aussi. Cependant, on peut dégager de la littérature trois objectifs principaux qui sont mis en avant de manière récurrente par les promoteurs de la Smart City, à savoir, premièrement, l'optimisation de la gestion des différents systèmes techniques composant la ville. Deuxièmement, la réduction de l'empreinte environnementale des villes. Quand vous entendrez parler de Smart for Green, voilà ce dont il est question. Et enfin, l'amélioration générale du bien-être et de la qualité de vie des citadins. Ce troisième objectif étant parfois confondu avec le premier que je viens de citer. Outre ces trois motivations, il est important que vous ayez également à l'esprit que le développement des Smart Cities s'inscrit jusqu'à présent dans deux mouvements historiques successifs relatifs à l'évolution de la ville intelligente et du discours y étant associé. Le premier mouvement, technocentré, a été lancé entre 2000 et 2010 par des entreprises du numérique dans le but de pallier les problèmes croissants liés à la densification urbaine. Il s'est traduit concrètement par une automatisation croissante de tous les objets, produits, services et processus de gestion de la ville dans une optique de création de villes connectées. Là, on est dans une vision top-down, c'est-à-dire dans laquelle un nombre restreint d'acteurs peut réellement participer à la prise de décision, notamment au niveau des outils et de leurs usages spécifiques. On peut citer comme événement clé de ce mouvement la campagne Smarter Cities d'IBM, lancée en 2009, et qui visait, en plein contexte de récession économique, à trouver de nouveaux débouchés pour les technologies et plateformes logicielles de l'entreprise américaine. Le second mouvement, dont on date l'apparition à partir des années 2010, se veut quant à lui plus collaboratif. Il inclut une prise en compte renforcée de la vie et de la participation des citoyens au fonctionnement de la ville intelligente. En se concentrant sur une adaptation des innovations au contexte, à la culture et aux besoins locaux, il s'inscrit en l'occurrence davantage dans une logique dite bottom-up. Et c'est ce que l'on verra notamment avec Armand à la fin de notre intervention. Alors certains auteurs, comme Yann Entiens, dont Pauline nous développera la pensée par la suite, évoquent enfin un troisième mouvement qui aurait émergé ces dernières années, centré autour des données produites au sein des villes, ainsi que des plateformes numériques qui reposent sur l'utilisation de données. Il est porté par les géants du numérique, aussi connus sous l'acronyme GAFAM. Équivalent à une troisième révolution urbaine pour certains auteurs, la transformation entraînée par la Smart City se révèle indissociablement technique, spatiale, sociale et politique, ainsi que nous l'explique Antoine Picon dans l'article précédemment cité. Ce nouveau modèle de ville vient ainsi modifier profondément les relations entre espace urbain, technique et société. Mais bien avant l'apparition du concept de ville intelligente, et ce depuis des millénaires, la ville a été pensée comme un lieu relationnel avant tout. C'est un nœud d'échange en tout genre, qu'il soit économique, politique ou sociaux. Le développement des villes intelligentes inclut-il une réflexion autour de ces relations ? Et si oui, comment les relations entre citoyens sont-elles impactées par les techniques, au sens large, mises en place au sein de la Smart City ? Avant que Florine réponde à ces questions, nous allons tout d'abord écouter Léonie et Pauline nous parler de la diversité des imaginaires associés à cette notion de Smart City, ainsi que la traduction de ces imaginaires dans la vraie vie et les impacts réels que ceux-ci peuvent avoir sur la réalité.
Merci beaucoup Anna pour cette introduction très claire, merci à toi. Alors écoute, j'ai déjà quelques questions qui nous viennent de Mattermost. Lucas qui se demande et qui est supporté par d'autres étudiants, donc plusieurs personnes se demandent s'il y a un exemple de projet de Smart City qui est mis en place concrètement en France déjà. Est-ce que vous auriez un ou plusieurs exemples à nous donner de Smart City en France ?
Oui, alors il me semble que la ville de Lyon est assez en avance sur cette question. Elle s'inscrit, je pense, cette ville, plus dans la troisième ère, on va dire, des Smart City portées sur les données. Et sinon, je pense qu'à plus petite échelle, d'autres villes essaie de collecter des informations. Et là, je pense peut-être aussi à Nice qui, voilà, sur un autre type encore de Smart City, ajoute beaucoup de caméras de surveillance dans ses rues. Ça peut aussi faire partie de ce type de ville.
Et au final, à plus grande échelle, comme j'en parlerai plus tard, Paris va essayer de le devenir aux horizons 2050. Donc il y a déjà des plans qui sont faits et qui vont bientôt être mis en place.
Ok, merci à tous les deux. Merci. Alors, je vois, Léo, merci pour ta question. Je la poserai un petit peu plus tard. Alors, je vois Solène qui pose aussi une question qui anticipe peut-être la suite, mais je me permets de la poser tout de même. Est-ce que vous auriez un exemple de façon dont les Smart Cities contribuent à l'écologie ? C'est vrai, Anna, tu en parlais comme un premier objectif des Smart Cities, qui est de réduire l'empreinte écologique des villes. Mais en soi, alors, Solène précise, le traitement des données peut avoir un fort coût écologique. Alors, quel type de démarche des Smart City peut, a priori, plutôt appuyer ce premier point qui serait de réduire l'empreinte écologique ?
Ouais, bah c'est une vaste question, en fait, et qui polarise beaucoup d'avis contraires sur le sujet. Ce que j'ai cité, en fait, c'est les objectifs qui sont, voilà, clamés haut et fort par les promoteurs de la Smart City, c'est pas forcément ceux qui sont réellement atteints. Et je pense qu'en effet, il y a, voilà, beaucoup de greenwashing derrière cette notion de Smart City. Du coup, des exemples très concrets. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de... Je pense qu'il manque de résultats aussi et de calculs. Et peut-être que finalement, bah, les promoteurs de la Smart City ne sont pas très pressés de faire ces calculs parce que, bah, il y a des pistes qui commencent à montrer que, voilà, utiliser de plus en plus de capteurs dans tous les bâtiments, dans toutes les rues, pour que, voilà, nos rues soient éclairées avec des lampadaires intelligents, c'est peut-être pas si écologique que ça. En tout cas, moi, je pense, c'est mon avis sur cette question.
Ok, merci Anna. En effet, après, chaque démarche peut être questionnée en soi. Alors, j'ai juste le souvenir, moi, du dispositif. C'est un exemple du dispositif qui a été mis en place à Rennes à partir de 2016, qui s'appelle le dispositif ambassadeur, et donc qui consistait à... Alors, c'est une démarche plus participative, après, qui consistait à aider les citoyens à s'informer, à tester la qualité de l'air via le réseau LoRa. Bon, c'était un exemple qui me venait en tête, mais en effet, comme tu dis, Anna, après, chaque cas s'étudie en soi. Ok, donc on va passer à la partie de Léonie, mais avant ça, on va vous passer à l'antenne deux extraits audio dont Léonie, tu donneras les sources après, je crois bien, oui. Alors c'est parti, un premier extrait.
Une ville intelligente n'est pas une ville capable de résoudre des problèmes de physique nucléaire, non. Une ville intelligente, c'est une ville qui collecte et utilise les données générées par ses habitants et ses infrastructures pour améliorer la qualité de vie et optimiser les ressources. Dans cette ville, il y a par exemple Félicia et Joachim, parents de deux enfants. Et bien chez eux, Félicia et Joachim ont un compteur connecté qui les alerte et les conseille en temps réel dans leur consommation d'énergie. Et grâce à des capteurs, leur maison peut aussi moduler automatiquement la température ou la luminosité en fonction du temps qu'il fait dehors. Et à l'échelle de la ville, la maison de Félicia et Joachim est connectée à un réseau électrique intelligent, ou Smart Grid, qui optimise la production et la distribution d'électricité en fonction des besoins de chacun. Mais la ville intelligente, c'est aussi Vincent, responsable des réseaux d'assainissement, qui est prévenu en temps réel lorsqu'un incident se produit sur une canalisation. Ou encore Margot, jeune conductrice, qui va pouvoir se garer en 2 minutes grâce à une appli qui lui indique les places libres les plus proches, ce qui va avoir un impact direct sur l'engorgement du trafic. Bref, la ville intelligente améliore la vie des gens tout en réduisant l'empreinte écologique. Et peut-être même qu'un jour, elle pourra nettoyer les crottes de chiens toute seule.
Et nous enchaînons avec un second extrait.
Ce qu'on appelle la Smart City ou la ville intelligente, c'est une plateforme. C'est un nouveau type de plateforme. C'est une plateforme territorialisée où la ville devient une interface, voilà, locale. Comment développer ce genre de choses selon un modèle qui ne va pas nous faire aller dans le mur de Songdo ou de Uber ? Arrêtons d'être des moutons technologiques. Arrêtons d'imiter la dernière success story complètement gavé de marketing stratégique et d'idéologie, je ne sais pas quoi, et commençons à penser un peu. Si on veut faire des villes intelligentes, essayons d'être intelligents. Si nous faisons des villes intelligentes en imitant les moutons débiles qui, à travers les algorithmes, sont en train de détruire les villes.
Mais alors, quel est le point commun entre ces deux audios ? pas grand-chose à part le fait qu'ils traitent tous les deux de la notion de Smart City. Le premier provient d'une pub Orange, intitulée « 60 secondes pour comprendre les Smart City », et le second est un extrait de l'intervention de Bernard Stiegler lors d'une conférence sur le nouveau génie urbain. Ils ont été choisis afin d'illustrer les ambivalences très fortes qui opposent les différents imaginaires des Smart City. C'est ce que Jean-François Lucas, chercheur en sociologie, questionne dans l'article dont je vais parler aujourd'hui, pour une fabrique des imaginaires de la Smart City. Mais avant tout, qu'entendons-nous par imaginaire ? Dans cet article, l'auteur propose une définition de Jean-Jacques Vunenberg, philosophe spécialiste dans ce domaine. D'après lui, l'imaginaire est défini comme un ensemble de productions mentales ou matérialisées dans des œuvres à base d'images visuelles telles que des tableaux, dessins, photographies et d'images langagières. Ces productions forment des ensembles cohérents et dynamiques qui relèvent d'une fonction symbolique. L'imaginaire est subjectif et dynamique, pétri de nos idéaux, rêves, fantasmes, croyances religieuses ou politiques, et il est largement nourri des imaginaires sociaux véhiculés par la culture savante ou populaire, ou, de nos jours, par les médias comme la publicité et le cinéma. Comme nous venons de l'entendre, les imaginaires de la Smart City sont très marqués et s'articulent majoritairement entre deux visions du monde. D'un côté, une vision très optimiste, où la technologie est vue comme le salut des problèmes sociaux environnementaux actuels. Une seconde, plus pessimiste, où règne surveillance généralisée, climat de méfiance et perte des libertés individuelles. Ces deux visions se déclinent sous forme de différentes ambivalences que je vais explorer. La première ambivalence concerne la vision de la Smart City comme une ville démocratique opposée à celle d'une ville totalitaire. On a d'une part des villes qui développent une « smart démocratie » dont le principe est de donner aux citoyens usagers la possibilité de participer à l'activité politique de son territoire sous des formes et registres différents. Les civic tech en sont des exemples les plus courants. Ces services et outils numériques, qu'il s'agisse de boîtes à idées numériques, de budgets participatifs en ligne, de jeux sérieux ou d'applications de mise en relation directe entre citoyens et élus, ont pour vocation d'améliorer le fonctionnement et l'efficacité de la démocratie en renouvelant les formes d'engagement des citoyens. Elles portent la promesse d'une démocratie ouverte et participative, d'une gestion de la ville dans laquelle chaque individu a la possibilité de s'exprimer et d'être entendu. À l'inverse, d'autres discours critiquent cette vision et dénoncent le fait, ou la possibilité, que les technologies soient utilisées à un dessein beaucoup plus sombre, celui de la surveillance généralisée et de la concentration de pouvoir. On retrouve ensuite une seconde ambivalence qui oppose l'imaginaire d'une ville écologique à celui d'une ville énergivore, comme l'on vient d'en parler. On a d'une part des discours en faveur d'une ville moins gourmande en énergie, comme illustré dans le premier audio. La ville est construite avec des réseaux électriques intelligents, dits « smart grids ». Les usagers consomment raisonnablement grâce à des compteurs intelligents, etc. Dans cette vision, la technologie panse les plaies de la surconsommation et de la pollution. Mais face à cela, d'autres arguments interpellent. En effet, le recours à toutes ces technologies et l'analyse de leur impact sur l'environnement en termes de cycle de vie, par exemple, soulève de nombreuses problématiques. On peut, par exemple, citer les terres rares qui sont nécessaires à la fabrication des ordinateurs et smartphones, ou encore de l'empreinte écologique des data centers. D'autres ambivalences sont également soulignées par l'auteur, comme celle de la ville partagée, avec les enjeux d'un espace collaboratif, qui s'oppose à celui d'une ville franchisée où règne capitalisme et propriété. On retrouve également la notion de ville sensible, dans le sens qui évolue en temps réel et qui fait face à la ville aseptisée. Une ville qui se vit en pilotage automatique où toutes nos activités et déplacements sont optimisés. C'est-à-dire une ville sans savoir, sans émotion, où tout est géré, prévisible et calculé par des algorithmes. Dans tous ces discours, on retrouve toujours une omniprésence du modèle de la ville technocentrée. Ainsi, pour en saisir tous ces imaginaires, Jean-François Lucas propose alors d'utiliser un autre terme pour définir les smart cities, celui de ville calculée. Qualifiée de cette manière, la ville peut être appréhendée comme un environnement urbain que les citadins pratiquent par la médiation de technologies numériques nécessitant des opérations de calcul. Cette notion de ville calculée permet de replacer l'individu au centre de la conception de la Smart City. En effet, les applications et services numériques utilisent des algorithmes ayant été élaborés par les humains. Or, il en va sans dire que les technologies ne sont pas neutres et qu'elles encapsulent des modèles de société différents. De ce point de vue, L'intelligence de la ville calculée répond à une visée, à un point de vue, à une appréciation, à un calcul fait par un ou plusieurs individus. Mais alors, qui a fait le calcul? Pourquoi? Comment? À quelle fin? Au profit de quoi? Selon quels critères? À partir de quelles données? C'est sur ces questions que je passe la main à Pauline, qui va nous expliquer en quoi ces questionnements sont importants et nécessaires.
Merci beaucoup Léonie pour cette partie très intéressante aussi, toute ta présentation des ambivalences est très intéressante aussi. Alors on pourrait aussi faire une pirouette en se disant qu'on va pouvoir combiner certaines parties, certains côtés des ambivalences, par exemple la vision très optimiste de la Smart City qui pourra être optimisée pour avoir des avantages, pour avoir des avantages de sur le plan écologique, pourrait se combiner à une smart city qui pencherait vers la surveillance généralisée. C'était une autre ambivalence que tu présentais. Alors on va pouvoir avoir des combinaisons comme cela, mais la présentation que tu fais de la ville calculée est très intéressante en soi. Alors après, pour que les citoyens puissent garder la main sur tout ce calcul, pour que tout cela puisse rester compréhensible et sous le contrôle des citoyens, c'est vrai que là, on peut se demander quelle peut être la marche à suivre. Alors, une question de Léo va dans ce sens. Par exemple, il se demande si le développement des Smart Cities doit être de l'ordre des pouvoirs publics ou plutôt de l'ordre d'initiatives privées. Alors après, plutôt politique nationale ou uniquement sur quelques villes spécifiques, peut-être on partait sur autre chose, mais est-ce que le développement des Smart Cities doit plutôt être de l'ordre des pouvoirs publics ou d'initiatives privées? Vous parliez aussi de la participation des citoyens eux-mêmes, mais que pensez-vous de cela? C'est pas une question facile en effet. Ouais. Oh, Léonie, tu as une idée?
Alors, c'est Pauline qui va en parler par la suite, mais j'ai un peu... En fait, il y a les deux points de vue qui peuvent être... qui peuvent arriver, on va dire, à savoir que l'initiative privée, c'est celle qu'on retrouve pour le moment le plus... qui sont déjà mises en place, et ça va être les initiatives qui sont notamment mises en place par les GAFAM, avec des grandes villes gérées par tout ce qui va être Google, etc. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus les pouvoirs publics qui essayent de saisir cette question. Mais il y a beaucoup de discours autour, mais il y a très peu de réalité. Donc c'est dans les années à venir qu'on va voir qui arrive à prendre le dessus sur l'autre pour développer son point de vue de la Smart City.
Merci Léonie. Donc j'imagine que Pauline, tu vas nous parler un petit peu plus en avant de tout cela aussi. Je te laisse la main.
Du coup, je vais continuer sur la réflexion menée jusqu'à présent sur l'ambivalence des imaginaires. Donc, cette partie s'appuie sur le livre de Yann Entjens, intitulé « Comment les géants du numérique veulent gouverner nos villes ?» En partant du principe que la technique influence les équilibres politiques, la question se pose alors de savoir comment déciderons-nous de notre cadre de vie en 2030 ou en 2040. En effet, ces dernières années, avec l'arrivée des technologies numériques dans l'espace urbain, beaucoup de nouveaux acteurs et de changements ont eu lieu. Nous pouvons par exemple citer Google et sa voiture autonome, Uber et le changement de mobilité dans les villes, Amazon et le changement au niveau de la logistique, Airbnb et le marché de l'immobilier. De plus, en 2017, Google obtient la responsabilité du premier projet urbain d'Amérique du Nord qui concerne l'aménagement d'une friche industrielle de 325 hectares bordant le lac Ontario. Ce géant de l'économie se pose en véritable maître d'ouvrage, montrant une tendance actuelle. La démocratie locale s'efface progressivement devant les entreprises qui fondent leur notoriété sur la collecte et le traitement de quantités massives de données. Donc je vous propose maintenant d'écouter un extrait de la présentation de Bernard Stiegler citée par Léonie précédemment.
La ville intelligente est une ville délibérative. Le lieu de la délibération chez les Grecs du 6e siècle avant Jésus-Christ, à Milet par exemple, ou Thalès, le mathématicien, a aussi fondé une colonie grecque, ça s'appelait le bouleterion. Bouleterion, ça vient du mot boulet qui veut dire volonté en grec. C'est l'endroit où on produit une volonté collective. C'est ça une ville intelligente. On veut collectivement quelque chose pour l'avenir de la ville. Voilà. Et ce n'est pas les plateformes de la Silicon Valley ou de je ne sais où qui nous disent comment on doit vivre. On travaille avec ces plateformes, elles ont des avantages. Si elles n'avaient pas d'avantages, si elles n'apportaient pas des fonctionnalités efficientes, elles ne fonctionneraient pas. Donc, bien entendu, on travaille avec Amazon, avec Google. Facebook, je ne suis pas sûr qu'il faille le faire. Mais bon, ce que je crois, c'est qu'il faut par contre que cette ville invente des nouveaux réseaux sociaux, des nouvelles plateformes.
Donc deux visions de la cité sont actuellement en confrontation, la ville algorithmique et la cité politique d'autre part. La première, désignée par le terme de ville algorithmique, rejoint la ville calculée précédemment citée par Léonie. Elle s'appuie sur des technologies numériques pour résoudre les problèmes de la ville. Ce modèle correspond au fonctionnement des villes nord-américaines, où le but est de répondre en temps réel à des demandes d'usagers et de transformer l'ensemble de l'espace urbain en galerie marchande réelle ou virtuelle. Les entreprises du numérique y sont omniprésentes. Nous savons que la technique s'accompagne d'externalités négatives. Les usages des technologies doivent donc être régulés, pensés, que ce soit au niveau de leur gouvernance et de leur fonctionnement. Nous devons interroger les critères des algorithmes ainsi que les objectifs de cette révolution technologique. La Smart City est construite comme une fin en soi. Le terme smart se rapporte à l'intelligence et à la bienveillance, mais une pauvreté des finalités visées est à souligner. De plus, ce modèle ne permet pas de penser des ruptures avec l'effet de bulle de filtre, notamment, qui forme une continuité. Il semble alors difficile de porter des projets politiques modifiant profondément les systèmes. Nous pouvons nous demander comment les débats et les controverses nécessaires à la démocratie pourraient être alors entretenus. Enfin, il est nécessaire de s'interroger sur le projet politique de la Silicon Valley, car les dirigeants des géants du numérique ont de plus en plus d'ambitions politiques, avec des pensées technosolutionnistes et l'homme augmenté, par exemple. Ces politiques sont transcrites dans les technologies qu'ils développent et implantent sur le territoire urbain. Donc le second modèle cherche à prendre en compte les dynamiques sociales, sociétales et culturelles. Il s'intéresse à l'intérêt général. Il s'agit du modèle de la cité politique d'origine européenne qui cherche à fédérer des citoyens autour de la recherche d'un bien commun. La cité politique s'appuie sur des ambitions plus élevées, sur l'intérêt général, sur du long terme. Pour s'affirmer face à la ville algorithmique, elle doit mieux traduire ses ambitions, tisser des cohérences entre les finalités éthiques revendiquées et les offres fonctionnelles proposées. La ville n'est pas seulement un ensemble d'objets techniques et d'infrastructures, mais est construite grâce aux décisions de différents acteurs, qui sont de plus en plus nombreux et de moins en moins prévisibles, principalement les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les maîtres d'usage, les citadins. Les maîtres d'usage fabriquent la ville par leurs choix quotidiens. Ils ont différentes demandes fonctionnelles, sportives, récréatives, sociales, culturelles. Les technologies numériques vont sûrement beaucoup modifier la répartition des compétences et des chaînes de valeur dans le processus de production de la cité, avec l'essor de l'importance de la donnée, de la modélisation urbaine, de l'optimisation des différents coûts. Enfin, il s'agit pour la maîtrise d'ouvrage de traiter avec des groupes ayant des compétences techniques, de gérer les offres spontanées des plateformes de services urbains pour éviter et gérer la disruption, de s'affirmer avec différentes formes de communication, de faire avec la régulation automatique des systèmes urbains, l'exploitation du big data par des algorithmes ou le transfert partiel du débat démocratique sur les réseaux sociaux numériques. La cité politique doit se positionner par rapport aux différentes technologies numériques, mais aussi par rapport aux acteurs qui les portent. La cité politique peut se positionner en tant que médiateur, mais risque alors d'être rapidement dépassée, ou devenir une autorité organisatrice des services urbains. La cité politique doit développer l'affirmation de compétences propres, l'acquisition de compétences numériques, le développement de nouvelles compétences et la construction d'alliances avec d'autres acteurs. Ces deux modèles, la cité algorithmique et la cité politique, sont en désaccord sur les finalités, sur les choix techniques, sur le jeu des acteurs. Mais d'autres compartiments sont aussi à explorer, tels que le plaisir urbain, la culture, les métiers par exemple.
Merci beaucoup Pauline pour ta partie aussi très intéressante. Et tu vois, ce que tu expliques sur la ville algorithmique, ça me fait penser à l'anticipation d'Alain Damasio. C'est un écrivain de science-fiction qu'on ne présente plus, mais qui imaginait dans son roman Les Furtifs une smart city justement complètement privatisée, avec des zones découpées, réservées à certaines classes. Et puis voilà, ça s'inscrit dans toute cette anticipation du techno-cocon de Big Mother, qui, comme il le dit, qui est très confortable pour nous, mais où la vitalité est de plus en plus réduite, comme il l'explique. Alors, pour ne pas verser trop dans cet imaginaire, trop dans cette ville algorithmique telle qu'il l'a décrit, telle que tu expliquais sans résister un petit peu, qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce qui est proposé? Est-ce que, en dehors des calculs dont tu nous parlais aussi, Léonie, est-ce qu'on doit faire davantage de manifestations culturelles, davantage d'événements sans traces? Comment équilibrer un petit peu et puis peut-être partir sur la smart city, plutôt la cité politique que tu expliquais, Pauline? Est-ce que certaines pistes, certaines réflexions nous aident à attendre d'un côté plutôt que de l'autre?
Déjà, je pense qu'il y avait le côté de la sensibilisation, c'est-à-dire que les citoyens soient au courant des différents risques liés à l'utilisation massive de toutes ces technologies. Et ensuite, du coup, ce serait vraiment l'implantation et le renforcement de la démocratie avec l'implication des citoyens et l'initiative citoyenne qui permettrait justement de contrer l'effet des GAFAM et de la centralisation qui justement menace la démocratie et le débat public.
Merci Pauline, merci pour ta réponse. Alors, on enchaîne donc avec la partie 2, Florine, mais je vais vous passer un petit extrait en intro. Florine, donc, tu vas nous parler davantage justement des relations entre les citoyens avec la Smart City. C'est parti, un extrait.
Avant tout, une ville, c'est un cadre de vie. C'est un point qui est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de ville intelligente, de smart city, de smart grid. Et en fait, on parle tout le temps de technologie. On parle d'amélioration de la vie, d'amélioration de la ville par la technologie. Et on oublie que malgré tout, c'est un cadre de vie. C'est un cadre de partage, de collaboration, d'échange, où finalement des gens, des êtres humains, se déplacent, font du sport, rencontrent des personnes, boivent de l'eau, mangent, consomment de l'énergie. C'est avant tout un cadre de vie et par nature, une ville, ça doit être vivant.
Comme nous venons d'entendre dans cet extrait de Fabien Cauchy, issu de la vidéo YouTube sous licence libre intitulée « #SmartCities de la ville intelligente à l'open city », la ville est un lieu vivant et est donc siège de constants échanges entre les citoyens. Cependant, comme mentionné par Lenny lors de son intervention, il existe un imaginaire de la Smart City assez pessimiste, dans lequel il est possible d'observer une perte des libertés individuelles, ainsi qu'un isolement des citoyens qui ont ici tendance à se renfermer sur eux-mêmes à cause de l'utilisation incessante des technologies offertes par la Smart City. Nous allons maintenant du coup écouter un court extrait audio issu du forum Smart Cities de Paris en 2015.
Ce que je crois aujourd'hui, c'est que le problème, c'est celui du lien. C'est-à-dire, le problème de l'agglomération, c'est que les liens sont distendus et que, dans le fond, plus il y a de liens entre citoyens, plus il y a des capacités pour la ville de répondre aux attaques de clandestins, aujourd'hui totalitaires, de Daesh. Par exemple, il est certain que nous sommes dans un processus de déshumanisation de ville, c'est-à-dire de désolidarisation. Fort heureusement, nous voyons à l'occasion des événements de la semaine dernière qu'il y a des poussées de solidarité qui se réveillent, parce que chacun en soi la pulsion, mais qui est endormie. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une civilisation, une société qui privilégie l'individualisme, l'intérêt, le calcul, la chronométrie, toutes ces choses-là, il y a une tendance à la déshumanisation.
C'est cet imaginaire pessimiste qui est illustré par Edgar Morin quand il affirme qu'il est certain que nous sommes dans un processus de déshumanisation des villes, c'est-à-dire de désolidarisation. Quand on regarde cet imaginaire de la Smart City, le numérique a donc tendance à briser et décourager les relations entre les habitants de la ville en diminuant au maximum les interactions que les citoyens ont les uns avec les autres. Cependant, nous pouvons analyser un peu plus profondément l'impact que pourraient avoir les techniques mises en place au sein de la Smart City sur ces relations entre citoyens, de manière à montrer qu'il existe un imaginaire opposé dans lequel les relations seraient plutôt encouragées et non détruites. Dans un premier temps, nous pouvons observer que les technologies numériques au sein de la Smart City pourraient encourager d'une part l'expression et la mobilisation active des citoyens, et cela est effectué grâce aux outils numériques présents au sein de la Smart City qui peuvent faciliter l'inclusion des citoyens dans la prise de décision en leur offrant la possibilité d'exprimer leur opinion de manière plus simple que dans la ville traditionnelle. Par exemple, il y a la plateforme ID.Paris, créée par la ville de Paris, qui permet de recueillir l'avis de ses habitants concernant les politiques de développement du Grand Paris. Nous pouvons voir que dans ce cas, un outil numérique est ici utilisé afin de prendre en compte l'avis des citoyens et leur permettre de s'exprimer, créant une relation facilitée entre les habitants et les institutions. Ensuite, un autre moyen de favoriser la mise en relation des citoyens dans les smart cities est d'encourager les habitants à se réunir les uns avec les autres afin de partager et de pouvoir créer ensemble. Nous avons l'exemple des Fab Labs, comme mentionné par Diaz Ladera en 2013, qui créent et représentent, grâce aux technologies de la Smart City, un lieu où les citoyens peuvent se rencontrer et échanger leurs connaissances et créer dans le but commun d'améliorer la ville. Il existe aussi d'autres exemples, comme le développement d'espaces de travail partagés, la mise en place d'applications de covoiturage, de partage de voitures ou de places de parking, qui sont tous des exemples où le numérique encourage et même parfois crée des relations entre les citoyens au sein de la Smart City. Enfin, nous pouvons aussi voir que les relations entre citoyens pourraient être encouragées dans les smart cities à travers des plateformes comme les réseaux sociaux locaux. Le réseau social local est un modèle alternatif aux réseaux sociaux traditionnels qui est en train d'émerger dans la webosphère et qui est une plateforme web ou mobile mettant en relation des utilisateurs locaux au travers de la mise en ligne de contenus générés par ces mêmes utilisateurs. C'est-à-dire que l'objectif ici de ces réseaux sociaux locaux est principalement de créer des relations entre citoyens, partageant des passions ou des lieux de vie communs, afin de pouvoir souder leur communauté locale en transmettant des informations importantes aux citoyens. Nous pouvons voir que ces informations sont le plus souvent des informations sur des événements majeurs à venir, ce qui permet, grâce aux technologies de la Smart City, de mieux passer les informations et d'encourager les citoyens à se retrouver non seulement en ligne, mais aussi en présentiel. Un exemple de ces réseaux sociaux locaux est le réseau social local Briesbook, qui a été créé par Corentin Biette. Et ce réseau social local breton crée une communauté autour de la Bretagne, de la langue, des événements et du quotidien, afin de permettre à ses utilisateurs de se mettre en relation et de partager les uns avec les autres. Nous pouvons donc voir qu'au sein de la Smart City, les réseaux sociaux locaux sont un atout pour la ville, car ils sont vecteurs d'informations et encouragent des relations entre ses citoyens. À travers tous les exemples cités précédemment, on peut donc voir qu'il existe un imaginaire opposé à l'imaginaire pessimiste dans lequel les citoyens seraient isolés les uns des autres. Et dans ce nouvel imaginaire, les relations entre citoyens sont plutôt encouragées au sein de la Smart City grâce au numérique et aux technologies mises en place. Nous verrons maintenant dans la prochaine intervention d'Armand l'exemple de la ville de Barcelone et comment elle illustre les différents points que nous avons abordés dans toutes les interventions précédentes.
Merci beaucoup Florine pour tous ces exemples convaincants pour nous montrer aussi eh bien, voilà, comment la Smart City peut aider à mettre en relation les habitants aussi. Alors tu vois, bon, puis Briesbook, ouais, on ira voir Briesbook, je ne connaissais pas, donc la Bretagne toujours à l'avant-garde. Alors ce que tu as expliqué fait penser aussi par exemple au circuit court entre les habitants, les réseaux locaux, les réseaux alimentaires, les AMAP, etc. Est-ce que vous avez déjà utilisé des circuits courts? Est-ce que vous avez des exemples par exemple de ce qui pourrait exister à Compiègne déjà? Vous en utilisez déjà un ou plusieurs?
J'en profite pour faire un peu de pub. Alors, c'est un petit réseau local, on va dire. C'est la CompiCop, qui est une coopérative alimentaire à Compiègne et qui permet en fait de mettre en relation des habitants, citoyens qui se questionnent sur leur manière de consommer et qui, comme alternative en fait au grand réseau de distribution alimentaire, propose de s'unir pour faire comme une sorte de petit supermarché local, approvisionner des étagères, les ranger eux-mêmes, en fait être bénévole pour faire tout ce travail que d'habitude on paye sur une marge et choisir en fait ce que l'on consomme. Ça peut être un exemple de circuit court.
Tout à fait, merci Anna. Ok, donc merci pour cette partie-là. Alors, on va enchaîner, je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent, je vais les garder peut-être pour la fin, on va enchaîner avec ta partie Armand. Et puis merci pour vos questions, je pense qu'elles iront bien en effet après pour tous les cinq en conclusion de votre intervention. Armand, tu es prêt? À toi la main.
Bon donc on va passer au concret. Ce dont nous avons parlé peut sembler assez futuriste. Pourtant, certaines villes sont déjà loin dans leur transition. Donc, on peut prendre par exemple Paris, qui se donne des objectifs pour 2050. Comparé à ça, Barcelone voit déjà des résultats à la mise en place de réformes datant de 2012. Donc, ça fait plutôt loin. Ils étaient plutôt en avance. Barcelone, c'est vraiment une pionnière, une avant-gardiste dans le domaine. Donc, nous allons voir concrètement quels ont été les buts de Barcelone dans cette transition et quels projets ont été mis en place pour les atteindre. On va commencer avec la numérisation de nos vies, qui maintenant est devenue inévitable et qui a accéléré et facilité la récolte de données personnelles à des fins de croissance économique. Un des grands objectifs de Barcelone était de recentraliser ces données et de redonner aux citoyens la main sur leurs données. Donc pour cela, Barcelone a mis en place un budget de 49 millions d'euros uniquement pour la création de logiciels libres ou open source. Ils ont de même financé un projet de CityOS. Donc chaque donnée récoltée par des capteurs de la ville passe par cet OS. Et notamment en 2018, c'était plus de 3 millions de données qui passaient par ces serveurs de CityOS tous les jours. Et donc ces données ont été protégées. C'est aussi 5 projets open source qui ont été créés, notamment le projet Decode, qui, basé sur le système de la blockchain et de la cryptographie, permet aux citoyens de gérer leurs données et leurs publications à un seul endroit. Enfin, pour améliorer la confiance entre les élus ainsi que pour avoir plus de transparence dans les démarches, chaque employé de la mairie se doit d'utiliser une adresse visible par n'importe qui. Donc n'importe qui peut voir le contenu des messages échangés pour avoir le moins de possible de lobby, etc. Le second objectif de Barcelone était d'attirer le plus de start-up possible. Donc avoir une ville dynamique à la pointe du progrès. Barcelone, avant ces mesures, était déjà un secteur très attractif, en comptant plus de 33 000 entreprises et 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires général selon le journal L'Express. Cependant, afin de favoriser l'émergence des projets valorisant la Smart City, les élus ont mis en place plusieurs systèmes. Donc, en effet, développer le réseau 5G permet une communication et beaucoup de nouvelles innovations. Ils ont décidé de cibler l'entrepreneur en mettant en place un incubateur de start-up et un fonds pour financer à hauteur de 5 millions par an. Enfin, plusieurs événements permettent la découverte de ces entreprises, comme le Make in BRC, donc Barcelone. Et d'autres événements permettent de donner l'envie aux jeunes entrepreneurs d'entreprendre, donc comme la Maker Faire. Et des formations visant à favoriser la création de start-up et le lancement dans le numérique ont été mises en place. Depuis la mise en place de ces concepts, c'est 2800 entreprises qui ont été créées et 54 000 nouveaux emplois aussi qui ont été créés. Et seulement dans le secteur de la technologie. Donc on voit qu'en quelques années, ça a énormément évolué. Enfin, le dernier objectif de Barcelone, c'était de former au plus sa population sur les enjeux du numérique. En 2019, l'accès libre à Internet a été classé comme un droit fondamental au même titre que l'eau. De même, de nombreuses formations accessibles à tout âge ont été mises en place afin de mettre en avant les dangers d'Internet, le problème des données personnelles ou encore la simple utilisation de cet outil. En 2018, c'est plus de 50 000 citoyens qui ont été formés à ces enjeux. Donc voilà ce qui conclut notre partie.
Merci Armand, merci pour cet exemple. Alors tu vois, je vais pouvoir vous poser une question que j'ai gardée sous le coude, la question de Manon, qui s'applique bien, je trouve, à ta partie. Armand, est-ce que les technologies des Smart Cities, donc, on pourrait dire celle de Barcelone, mais est-ce que les technologies des Smart Cities sont toujours utiles et positives pour la ville ? Sous-entendu, est-ce que ce n'est pas parfois juste pour mettre en avant une ville de manière artificielle ? De manière artificielle, c'est vrai qu'on peut l'interpréter de plusieurs façons, mais aurais-tu une réponse ?
Je peux répondre. Alors, quand on peut prendre l'exemple de Barcelone, on voit qu'il y a quand même eu beaucoup d'aspects positifs sur un aspect économique, sur un aspect plutôt citoyen, parce que tous les événements comme Make in BRC ou le Maker Faire permet vraiment aux citoyens de se rencontrer, de comprendre ce qui se fait localement. Donc ça a été totalement positif, mais il ne faut pas oublier que certaines Smart Cities, donc pas forcément Barcelone, peuvent, de par leur aspect très technologique et peut-être un peu trop, on va dire, parfait, justement faire fuir les citoyens. Je ne me souviens plus du nom de la ville exactement, mais une ville considérée comme trop parfaite et trop technologique, justement, a fait fuir ses citoyens et au final, personne ne veut y habiter. Donc, voilà, c'est aussi un point à prendre en compte, mais pour Barcelone, c'est quand même très positif, bien qu'il y ait bien sûr quelques points négatifs qu'on pourrait citer, comme ici l'écologie, qui n'a pas forcément été prise en compte, avec bien sûr tous les serveurs à faire tourner qui tournent à une énergie non propre.
Ok Armand, merci pour cette réponse-là. Alors tu vois, en t'écoutant, j'ai une question qui m'est venue aussi, justement sur la relation entre la collecte des données et puis les prises de décision sur la ville. Je m'explique, je me demande si les données qui sont collectées, aussi la mise en place de la plateforme CityOS que tu expliquais pour Barcelone, sert à prendre des décisions pour la politique de la ville. Est-ce que les décisions politiques qui concernent les citoyens, donc qui produisent les données, sont prises en prenant des conclusions sur les données collectées? Est-ce que ça rentre en compte? Est-ce que des choses sont prévues justement entre tout ce que l'on pourrait comprendre du fonctionnement de la ville avec ces données connectées et puis collectées et les politiques ensuite qui vont être mises en place?
Alors justement, en reprenant CityOS comme exemple, le but est ici d'anonymiser chaque donnée qui rentre pour être sûr de respecter la vie privée. Donc c'est vraiment un but principal de Barcelone. Et ainsi, ils vont pouvoir avoir des statistiques. Donc 3 millions de données par jour, ça permet de faire des très bonnes statistiques. Et justement, pouvoir prendre des décisions derrière, mais de manière totalement anonyme pour les citoyens et de manière vraiment à respecter la vie privée de leurs citoyens.
Merci Armand. Écoute, ça a l'air magnifique ce que tu nous racontes ici. Alors, est-ce que tu aurais peut-être une source, un lien pour que l'on puisse en savoir plus, aller creuser un petit peu cette Smart City à Barcelone?
Oui. Alors justement, ce travail et donc ces données proviennent directement de Barcelone. Donc un communiqué qu'on peut retrouver justement sur leur site qui fait l'état, on le retrouve très facilement quand on tape Smart City sur le site, et ça fait l'état de ce qu'ils ont fait durant de 2012 à 2018.
Ok, merci Armand. Bon, on vous laissera aller voir cela avec les sources de Barcelone et peut-être d'autres sources, puisque c'est vrai qu'on a appris en WE1 à croiser les sources, mais c'est ce que vous avez bien fait aussi pour cette présentation. Bien, écoutez, alors il nous reste quelques questions. Je vous inviterai, mesdames et messieurs, les étudiants et étudiantes qui avaient joué le jeu, merci à poser vos questions aussi en commentaire de la vidéo PeerTube qui sera publiée donc avec le podcast de cette intervention par Stéphane qui fait ce travail. Et là, alors, on va conclure cette émission, si vous n'avez rien d'autre à ajouter. Mais je vois vos têtes contentes d'en terminer. Bravo à tous les cinq. Bravo à tous les cinq et merci pour votre travail. Vous pourrez réécouter les interventions, du jour, les interventions précédentes de l'après-midi. Donc, toutes les interventions des étudiants de WE1, un podcast sur l'instance, donc PeerTube, aperi.tube, chaîne WE1. Et puis, si vous êtes curieux ou curieuse de ce que l'on apprend en WE1 en général, vous pouvez aller faire un tour sur le site librecours.net et puis venir échanger avec nous, si vous le souhaitez, sur team.picasoft.net. La semaine prochaine, ce ne seront pas 3, mais 4 groupes, cette fois, d'étudiants que vous pourrez écouter sur Graphite le mercredi après-midi. Après, malheureusement, on s'arrêtera là, mais enfin, ce sera à suivre, j'espère. En ce qui me concerne, j'aurai le plaisir donc d'animer la seconde session de présentation qui sera avec Danaïl, Léo, Tom et Kuak Jakat, où nous parlerons de l'affordance des médias sociaux numériques. Et puis ensuite, Julie, Lucas, Manon et Guillaume nous parleront des coûts du numérique. Je vous remercie pour votre écoute. Merci encore une fois à tous les cinq. Bonne fin de journée et à bientôt.